France Inter. Bruno Duvic. Édition spéciale.
Et le 13-14 est rue de Palestine, 19e arrondissement de Paris, point de passage bien connu de la communauté ukrainienne de la capitale. Deux petits immeubles de 3 étages, les couleurs du drapeau ukrainien sur la façade, des bureaux, des logements, une bibliothèque et 2 endroits particulièrement emblématiques, l'église ukrainienne orthodoxe Saint-Simon et le local des scouts ukrainiens. Et ce bruit de scotch et de carton qui se referme, car depuis la semaine dernière, les scouts ont lancé un appel aux dons pour l'Ukraine. Et c'est une ruche, ce local de scouts, depuis quelques jours. Bonjour Alenka Bondar.
Oui, bonjour.
Vous êtes la trésorière de Place de Scouts d'Ukraine. Vous avez lancé un appel à l'aide dès le 2e jour de guerre.
Oui, en fait, on a lancé l'appel vendredi après-midi. Et déjà samedi matin, on a ouvert cet entrepôt et aussi d'autres entrepôts ici à Paris, en Ile-de-France. Et en fait, on était vraiment impressionnés par la quantité de gens qui voulaient nous aider. Et oui, donc on travaille, ça fait déjà 5e jour, je crois, ouais, qu'on travaille jour et nuit.
Et, jour et nuit.
Au jour et nuit, oui, parce que pendant la journée, on est là. Et pendant la nuit, on essaye de répondre aux plusieurs, je ne sais pas, 100 ans, ou même 1000 messages qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, sur différents, des appels, des SMS.
Alors là, ce local, c'est un amas de carton. Il y a tous les produits qu'on peut imaginer, produits d'hygiène, produits d'alimentation, produits médicaux. Et à nos côtés, il y a également Yulia Pavlenko. Bonjour Yulia.
Oui, bonjour.
Vous êtes arrivée hier, vous aviez envie de donner de votre temps. Vous êtes ukrainienne vous-même.
Oui, effectivement, je ne fais pas partie de l'association ukrainienne, mais toute ma famille est en Ukraine, mes parents sont à Kiev, mes grands-parents sont à Tchernigov, mon frère, il est militaire dans le front de l'Est, et du coup, je voulais aider, donc j'ai écrit à toutes les associations, tous les numéros que j'ai trouvés, ils m'ont répondu ici, et j'ai pris les vacances au travail, et je compte aider autant que je peux.
Parce que vous travaillez par ailleurs, donc effectivement, oui, vous prenez vraiment sur votre temps, y compris professionnel. D'abord, quels échos l'une et l'autre avez-vous de vos proches? Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Est-ce que vous arrivez à les joindre? Comment ça se passe? Yulia, d'abord.
Pour l'instant, j'ai le lien avec tout le monde. Il y a juste mes grands-parents qui n'ont plus d'Internet, mais ils avaient une vieille connexion par câble. Tout le reste, ils ont le réseau, mais effectivement, ils ont peur. Et en même temps, ils sont prêts à battre jusqu'au bout. Par exemple, mes parents à Kiev disent qu'ils vont, s'il faut, ils vont mourir, mais ils ne vont pas laisser prendre Kiev. Donc tout le monde aussi dans cet état de bataille jusqu'à dernière souffle.
Olenka, vous dites l'aide, c'est pour les Ukrainiens, mais en priorité pour ceux qui se battent.
Oui, c'est ça. En fait, on travaille plutôt pour collecter vraiment les matériaux pour les, pas aussi pour les soldats, mais aussi pour les civils qui sont dans la protection territoriale de leur ville.
Et ça veut dire qu'ils ont besoin de quoi?
Ils ont besoin en fait d'équipements de protection dans ce sens-là, que par exemple les sacs de couchage, oui, les gants, les chaussettes, les chaussures, le sous-vêtement thermique. Aussi les trousses de sécurité de bonne qualité, en fait, les trousses de secours de l'OTAN. Oui. Aussi les thermos,
les casques.
Oui. Ça, on ne s'occupe pas de ça.
Okay. Ouais.
Et donc, tout ça, en fait, pour les civils qui n'ont pas, en fait, l'accès à tout ça parce qu'ils ne sont pas les militaires officiels.
Et comment on achemine? Comment on achemine cette aide?
Oui, on a des camionnettes et des camions qui partent tous les jours, en fait, même
tous les
plusieurs,
jours.
Oui.
Ils plusieurs. Viennent d'où, ces camionnettes, ces camions?
Ce sont des camionnettes des Ukrainiens qui, normalement, quand il n'y a pas de guerre, qui font des services de transport entre l'Ukraine et la France,
oui,
et qui partent une fois par semaine, normalement, mais maintenant, à ce temps-là, ils partent ils partent tout le temps, en fait. Donc, ils font des allers-retours tout le temps.
Et on a vu même deux jeunes filles passer ce matin avec une petite Peugeot 207 pleine à craquer de carton. On a vu Ivan passer également pour débrasser des cartons tout à l'heure. Est-ce que vous savez précisément quel chemin ils suivent? Est-ce qu'on passe facilement?
Oui, en fait, nos camionnettes, normalement, toutes les camionnettes, ils vont en Pologne, à la frontière polonaise. Il y a des entrepôts qui sont organisés soit par les scouts, soit par d'autres organisations ukrainiennes et aussi polonaises.
Ouais.
Et après, de ces entrepôts, il y a d'autres transports qui peuvent traverser la frontière. Et soit ils se rencontrent à la frontière.
Et ensuite, pour avancer dans le pays, c'est ultra compliqué. On reste à l'ouest. Comment ça se passe?
C'est un peu compliqué. Bien sûr qu'en l'ouest de l'Ukraine, c'est plus facile. Il y a des entrepôts à l'est de l'Ukraine où les gens ils réceptionnent toutes ces aides humanitaires qu'on envoie. Et après, ils envoient dans les endroits où c'est le plus nécessaire. Mmh. Mais bien sûr qu'il y a vraiment même Kiev ou Tchernigiv maintenant, c'est vraiment très difficile d'accéder. Donc seulement les camions militaires qui peuvent accéder. et bah, on s'organise, nous nous organisons et on a des contacts dans plusieurs villes et on essaye de faire en fait cet acheminement.
Les contacts, c'est quoi? C'est le réseau des scouts?
Ce sont des scouts et aussi d'autres militaires, oui.
Qu'est-ce que vous faites là depuis tout à l'heure, Yulia? On entend ce bruit de scotch qui est très impressionnant et de paquets qu'on déballe ou qu'on remballe. Vous faites quoi là depuis ce matin concrètement?
On reçoit beaucoup de dons et on fait le tri par catégorie, les médicaments à part, la nourriture bébé-enfant, hygiène femme-enfant à part. Et après, une fois carton rempli, on l'emballe, on signe. Et on le range pour que ça soit envoyé au plus vite en Ukraine.
Des dons financiers, y compris, c'est possible, Olenka?
Oui, c'est possible. On a créé en fait le lien sur le site Helloasso, c'est le site connu ici en France. Vous pouvez trouver, si vous tapez dans la recherche Plast Scout, vous allez trouver notre page. Il a l'appel aux dons financiers. Mmh. Et en fait, c'est pour ça, parce que nous envisageons en fait de faire les gros achats de tous ces matériaux, comme disait, par exemple les chaussures, les chaussettes, les gants, le sous-vêtement thermique, les trousses de secours, pour qu'on puisse organiser l'achat organisé en fait, et vraiment les grosses fournitures de ça, parce que on apprécie vraiment tout ce que les gens nous apportent, mais aussi on veut faire un peu plus et vraiment d'acheter les modèles de certaines choses qui sont approuvées, on peut dire, et vérifiées avec nos amis ukrainiens.
Et vous vous coordonnez avec d'autres associations? Il y a une autre association qui est au troisième étage qui elle collecte des vêtements. Vous coordonnez avec les autres?
Oui,
parce que en fait, tout ça est plein d'initiatives, mais j'imagine que ça part un peu dans tous les sens et que ça doit être compliqué de...
Oui, l'association qui est ici au troisième étage, c'est l'association L'Ukraine pour tous. Et oui, ils ramassaient et accueillaient les vêtements. Pour l'instant, c'est ce que j'ai entendu, ils ont arrêté de prendre ça, pour l'instant, parce qu'ils sont en train d'organiser comment envoyer tout ça dans un entrepôt, et vraiment, ils sont en train de prendre les contacts avec les réfugiés qui sont déjà en France.
Yulia, vous allez pouvoir mettre le travail entre parenthèses combien de temps?
Je sais pas, j'ai pris 3 jours pour l'instant. S'il faut, je pourrais prendre la semaine prochaine. Et voilà, on va voir. Dans tous les cas, j'arrive pas à me concentrer sur mon travail, donc je préfère d'être ici utile.
Est-ce que vous avez le moral? Vous avez toutes les deux une énergie et même le sourire. Est-ce que vous tenez même dans le contexte actuel?
On tient. Après, c'est beaucoup plus compliqué pour les gens qui sont là-bas. Donc, on se sent, je pense, mieux aussi d'être ici, essayer d'aider, que juste être à la maison inutile et vérifier les messages en continu et avoir peur en continu. Au moins, on fait quelque chose.
Olenka, je peux voir votre téléphone portable? Elle cherche dans ses poches. Ah non, vous l'avez posé quelque part. C'était juste pour dire que je pense que c'est le téléphone le plus assailli de tout Paris. Vous avez passé la matinée dessus. Combien de messages en attente, là?
En attente, c'est 189.
189.
Mais il y a plein que j'ai ouvert, mais pas encore répondu.
OK.
Et donc, il y a plein d'appels que je reçois tout le temps et c'est énorme.
189 messages en attente. Merci beaucoup.
C'est seulement des SMS. Je compte pas les réseaux sociaux comme Messenger, WhatsApp et d'autres applications.
C'est bien noté. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. Tiens, message de service pour la mairie du 19e arrondissement. Comme il y a beaucoup d'activités, il y avait des cartons qui s'étaient accumulés devant. Il y a une bonne âme qui a signalé cela et l'association a pris une amende. Donc, si la mairie pouvait envoyer régulièrement un camion pour débarrasser les cartons, ce serait assez bon esprit. Allez, je rejoins nos deux autres invités dans la petite camionnette technique de France Inter qui est installée juste devant. Philippe Testa et Christina Biletska. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Philippe Testa pour la Croix-Rouge, pardon. Le temps que je m'installe dans cette camionnette technique et que je prenne le second micro. Non, je vais vous poser une première question avec ce micro, Philippe Testa. Tout simplement, quels échos, vous, de la Croix-Rouge, avez-vous de ce conflit? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Alors tout d'abord, il faut savoir que les actions qui sont menées par la Croix-Rouge sont coordonnées à partir de Genève, c'est-à-dire que nous sommes en lien direct avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et avec le Comité international de la Croix-Rouge.
Oui.
Donc le Comité international de la Croix-Rouge qui s'occupe de toutes les problématiques liées à aux zones de guerre et la Fédération qui s'occupe plutôt du soutien aux populations et de l'accueil des réfugiés.
Voilà. Donc il y a le réseau Croix-Rouge.
Le réseau, exactement.
Le mouvement. Efficace et présent. Est-ce que l'aide humanitaire est particulièrement compliquée ou est-ce qu'elle est possible à organiser avec ce réseau, vous qui avez l'habitude de ces interventions?
Alors elle est possible à organiser, il faut juste s'organiser pour le coup.
Oui.
Simplement parce que la situation est mouvante. On n'est pas sur une situation de catastrophe comme souvent on la voit, où une fois que la catastrophe est terminée, on peut agir et agir massivement. Là, on a une situation qui est complètement évolutive, avec des besoins qui évoluent. Donc, nous sommes en contact au travers des organes internationaux de la Croix-Rouge avec les sociétés nationales, c'est-à-dire les Croix-Rouges de Pologne, de Hongrie, de Roumanie, de Tchéquie, etc.
Parce qu'il y a ça aussi dans l'opération actuelle, il y a l'Ukraine et puis les pays limitrophes.
Exactement, ouais. Et ces Croix-Rouges-là nous remontent l'ensemble des besoins.
Et quels sont les besoins ?
Les besoins sont des besoins actuellement sur des lots de secours, sur du matériel d'hébergement, du matériel lié à l'hygiène, à la vie courante, ce qu'on appelle nous de la relief, hein, c'est-à-dire de distribuer des fourchettes, des couteaux, enfin de faire que les gens puissent avoir une vie. Voilà. Et on a une liste très précise de matériel. Et en fait, on a lancé un appel à dons simplement parce que il est plus facile de récolter des dons numéraires et ensuite d'acheter du matériel pour pouvoir le transmettre. Parce que d'abord, c'est notre façon de faire. C'est notre
Donc, si on veut aider, pour le dire très simplement, plutôt de l'argent et ensuite vous vous occupez d'acheter ce
exactement,
qu'il faut.
Exactement. Okay.
Christina Biletska, vous êtes secrétaire de l'association Aide Médicale France-Ukraine. Un mot d'abord de cette association, parce qu'elle a une histoire qui raconte l'histoire récente de l'Ukraine.
Oui, notre association a été créée en 2014, lors des événements sur Maïdan, oui. Où la révolution de la dignité a éclaté pour faire donc fuir le président, qui a fait fuir finalement le président Yanukovych.
Pro-russe.
Pro-russe, merci. Oui. Et donc, nous sommes organisés ici avec une cinquantaine de bénévoles pour, au début, accueillir des blessés sur Maïdan. C'était des personnes qui ont eu des blessures oculaires pour les faire soigner ici. Et ensuite, nous avons développé un projet AMC humain, humanitaire, qui consiste à rééquiper les hôpitaux le long de la ligne de front en Ukraine. Je dirais ancienne maintenant, ligne de front, ouais. Et d'autres
donc
hôpitaux,
celle de l'Est.
Voilà,
ouais.
Et aussi un hôpital militaire à Kiev, ouais. ou d'autres hôpitaux.
Donc vous, c'est de l'aide médicale lourde dont vous vous occupez.
C'est ça. Depuis 2014, depuis 8 ans, nous avons envoyé plus de 1000 tonnes de matériel médical. Ce sont des lits médicalisés électriques, des couveuses, des lampes pour les blocs opératoires. Des matériels pour les dentistes, donc du matériel un peu plus spécialisé comme pour faire des radios, etc.
Et donc là aussi, si on veut vous aider, c'est plutôt des aides financières et ensuite charge à vous d'acheter le matériel médical précis dont les gens ont besoin sur place.
Exactement. Nous avons développé un réseau de contacts avec les médecins et les hôpitaux en Ukraine qui nous font remonter aujourd'hui leurs besoins. Mmh. Et nous avons donc constitué une liste qui se trouve sur la page de notre association, ouais. amc.ukr.fr, où vous pouvez trouver donc la liste du matériel médical de premier secours et vous pouvez voir les quantités qui sont impressionnantes en fait, dont on a besoin pour distribuer à nos partenaires.
Philippe Testa, adjoint aux opérations en Ukraine pour la Croix-Rouge. Il y a eu une mobilisation générale dans le pays, donc il y a beaucoup de femmes et d'enfants isolés. Est-ce que ça nécessite une action particulière ? Comment ça se passe ?
Oui, alors en ce qui concerne les personnes qui potentiellement sont réfugiées en France,
oui.
La coordination avec les services de l'État est en train de se mettre en place. D'ailleurs, pour tout vous dire, on a un call avec les ministères là, à 16h sur le sujet. Donc on est en train de préparer les choses. Là aussi, c'est une action malheureusement dont nous avons l'habitude. La seule différence par rapport à ce qu'on a l'habitude de gérer, ça va être la volumétrie, de savoir combien de personnes il va falloir accueillir, les femmes, les enfants, scolariser les enfants, enfin faire que tous ces gens-là, une fois qu'ils seront mis à l'abri, puissent en tous les cas...
Ça, c'est pour ceux en France et en Ukraine, femmes et enfants isolés, il doit y en avoir aussi. Ah. Est-ce que vous arrivez à accéder à eux ? Est-ce que vous arrivez à accéder aux villes où la bataille est la plus rude en ce moment, Kharkiv, Kherson, ces zones-là, est-ce que vous y accédez ? Et je poserai la question également à Christina.
Alors, la Croix-Rouge ukrainienne est très active, oui. Sur le terrain. Elle participe à l'ensemble des missions qui sont celles de la Croix-Rouge de façon usuelle. Et on a même un lien, en fait. Il y a un lien de par la fédération, il y a un lien, et le CICR, il y a un lien entre l'ensemble des sociétés nationales dont je vous ai parlé, oui, la Croix-Rouge ukrainienne et même la Croix-Rouge russe, qui participe comme elle peut, en tous les cas, qui participe à venir à soutenir les autres sociétés nationales. Donc, on a la possibilité, en tout cas, d'avoir accès à l'ensemble de la population.
Ce que vous nous dites, c'est que, au septième jour de guerre, au fond, pour une grosse organisation comme la Croix-Rouge, c'est une opération humanitaire qui est gérable. On peut aller aider les gens. Autant il y a des situations où on dit on a du mal à accéder. Là, on peut aider les gens.
Pour l'instant.
Christina Biletska, même remarque. Par où passe l'aide? Comment ce qui peut partir éventuellement d'ici arrive en Ukraine? Est-ce que ça passe encore? Est-ce que c'est de plus en plus difficile? Et est-ce que vous arrivez à accéder aux zones les plus compliquées?
Depuis le début de la nouvelle phase de guerre, depuis 7 jours, donc nous n'avons pas encore envoyé de convoi humanitaire. Nous avons développé donc une stratégie. Nous avons ici des contacts des transporteurs qui vont acheminer les camions semi-remorques, vont acheminer de l'aide jusqu'à les entrepôts en Pologne.
Il y en a un qui part bientôt là.
Il y en a un qui va partir samedi ou dimanche. Voilà. Ensuite, ce sont nos transporteurs habituels ukrainiens qui vont récupérer ce chargement en fait à la frontière polonaise.
Un mot, est-ce que vous avez des nouvelles de vos proches? Est-ce qu'ils vont bien? Où est-ce qu'ils se trouvent?
J'ai une famille qui est très dispersée dans plusieurs villes, à Donetsk depuis 8 ans occupée, où c'est le plus calme en ce moment.
Paradoxalement.
Voilà. Ouais. J'ai de la famille qui est dans les caves à Kiev, des amis à Zaporijjia, à Ivano-Frankivsk, de la famille à Lviv, où c'est encore une fois un petit peu plus calme, mais on est très inquiet, on est en contact tous les jours.
Vous arrivez à avoir des contacts?
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'ils cherchent à venir en France ou à quitter l'Ukraine? Est-ce qu'ils veulent rester? Est-ce que les hommes sont au combat?
Paradoxalement, les gens veulent, de ma famille, ils veulent rester. Ils disent, c'est notre terre, c'est notre pays, nous sommes nés ici, nous ne pouvons pas fuir, on doit absolument rester ici pour protéger notre territoire et pour le garder.
Philippe Testa, dernière question. On voit la floraison de solidarité, les mouvements, les propositions dans tous les sens. On a vu ici beaucoup de particuliers passer ce matin. Est-ce qu'il y a le risque d'une aide qui part dans tous les sens, qui soit en désordre? Vous qui, avec une organisation comme la Croix-Rouge, avez l'habitude de ça. Comment on évite qu'au fond, il y ait une déperdition d'énergie?
Ça, c'est un risque.
D'une partie de l'aide.
C'est indubitablement un risque. Je pense que la coordination de l'ensemble de l'aide devrait pouvoir limiter en fait la
qui
perte.
Coordonne.
J'ai déjà expliqué. Ouais, nous on a un réseau, donc voilà. Ensuite, je pense que il y a l'ambassade d'Ukraine, il y a le ministère peut-être des Affaires étrangères. Enfin, il y a des choses, il y a des instances qui actuellement s'occupent de voir organiser leur coordination.
Vous êtes en contact avec ambassade, ministère,
oui.
Christina,
oui. Ouais. Donc moi je pense juste que comme je le disais tout à l'heure, la grosse difficulté, ça va être la temporalité de l'événement et savoir que si ça dure et si on finit par avoir 5, 6, 7 millions de personnes à gérer, de toute façon, on finira par avoir besoin des aides. Et donc la coordination qui est en train de se mettre en place, en tous les cas, va pouvoir sûrement absorber une partie de l'aide largement.
Merci à tous les deux d'être passés ici dans cette rue de Palestine, 19e arrondissement, qui est un des cœurs battants de la communauté ukrainienne à Paris. Si on veut faire des dons, évidemment, le site de la Croix-Rouge. Et en ce qui vous concerne, Christina, c'est amc.ukr.fr. Voilà, parmi les gens qu'on a vu passer, pour vous dire que c'est vraiment une histoire de quartier, on a vu passer ce matin une dame qui était à l'église catholique juste à côté, et le prêtre catholique incitait à venir donner ici rue de Palestine, et elle passait, elle se renseignait et elle passait distribuer de l'aide. 13h46 sur France Inter, avant de recevoir notre prochaine invitée, un nouveau témoignage qui illustre cette fois la solidarité sur les réseaux sociaux. C'est celui de Caroline Andréoni. Elle est architecte d'intérieur, elle a 7 employés et elle travaille notamment avec un entrepreneur entrepreneur ukrainien. 86 000 personnes la suivent sur Instagram. Elle a proposé à ses followers de centraliser des dons et depuis, ses locaux se remplissent de colis. Elle a mis son activité professionnelle de côté, comme Yulia qu'on entendait tout à l'heure pour quelques temps. Thibaut Cavaillet s'est passé dans ses locaux dans le 15e arrondissement de Paris. C'est un peu la folie.
Bonjour, on vient pour livrer des colis pour l'Ukraine.
Oui, juste
mes amis. Merci, vous pouvez ouvrir.
Ouais.
Merci. On arrive au showroom.
Bonjour.
Des vêtements, en revanche, ben, tout est propre, c'est pas troué, c'est pas taché. Et puis il y a des vêtements chauds, des manteaux, et de 12 à 14 ans.
Oui, au 8e étage. À tout de suite.
C'est la fin de la journée, du coup les gens vont arriver en masse. C'était absolument pas prévu. Je pensais pas. Merci beaucoup.
Bravo, en tout cas, pour ce que vous faites.
C'était pas du tout prévu, mais je suis en contact, moi, avec mon entrepreneur depuis que ça a commencé il y a 4 jours.
Il est là-bas, lui ou...
Lui, il est là-bas. Et quand, il me raconte ce qui se passe là-bas, il me dit « je peux pas t'expliquer, c'est indescriptible », les horreurs qu'il voit. Et moi, je me suis dit « mais nous, on est là, on est totalement impuissants. » Et moi, je le connais depuis 8 ans et je me dis « c'est pas possible, je peux pas rien faire ». Et j'ai la chance d'avoir une communauté Instagram mais très engagée et je me suis dit il faut absolument que je m'en serve.
Donc en moins de 24 heures, votre showroom d'architecte d'intérieur est devenu un lieu de stockage. Vous montrez ?
Exactement, ouais, je vous montre.
Ah ouais.
Donc ici, normalement, c'est notre petit salon.
C'est une pièce, on va dire, de 12 mètres carrés.
12 mètres carrés, exactement. Ouais. Et ben, donc là, on a poussé un peu les meubles et puis on a commencé à organiser tous les vêtements dans le fond. On a reçu ce matin un camion entier d'Amazon, rien que pour nous. Donc il y avait 84 colis que l'on a déjà triés par catégorie. Tout ce qui est un peu hygiène, couche. On a même eu un monsieur tout à l'heure au téléphone qui m'a demandé s'il pouvait apporter des croquettes pour chien, parce que ça lui tient à cœur de la cause animale. Donc on lui a dit bien oui, bien sûr.
Oui. Merci beaucoup, beaucoup.
C'est une logistique qu'on s'organise, je dirais, sur le tas. Enfin, c'est vraiment... on improvise, quoi.
Là, c'est une amie qui m'a demandé de récupérer ça, donc je ne sais pas ce que c'est.
Okay.
Et j'en ai un autre en bas.
On va trier, de toute façon.
Ah oui, d'accord.
Ouais.
Ok. On vous laisse la porte ouverte.
Ouais.
Voilà pour ce témoignage. Et ici, dans le studio improvisé de France Inter, 19e arrondissement de Paris, rue de Palestine, avec les Ukrainiens de Paris, nous voulions parler aussi de la question de l'hébergement et du logement des réfugiés qui commencent à arriver. Nous a rejoint Delphine Rouillot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de France Terre d'Asile. 700 000 Ukrainiens ont quitté leur pays. Philippe Testa de la Croix-Rouge nous le disait. À terme, on redoute des millions de personnes, l'exil de millions de personnes. Pour l'instant, en France, très peu de personnes sont arrivées. On parle de quelques dizaines. Hein.
Ah oui, tout à fait. Pour l'instant, en fait, on est surtout en train d'anticiper et de s'organiser pour voir comment l'accueil pourrait bien se passer. Mais les personnes arrivent de manière très, 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 très limitée.
Alors, on voit fleurir des initiatives de collectivités locales, de particuliers qui disent « moi, je peux loger ». Vous, France Terre d'Asile, à ce stade, quel est votre rôle ?
Notre rôle, il est modeste à ce stade, mais justement parce que tout l'objectif, c'est de penser la coordination. Donc il y a deux enjeux importants en premier lieu. C'est d'abord de penser l'accueil d'urgence des personnes qui arrivent par leurs propres moyens, effectivement, qui passent la frontière polonaise et qui soit sont récupérées par des proches qui viennent les chercher, qui les ramènent en France, soit prennent des trains, des avions. Et donc il faut penser la manière dont ces personnes, quand elles arrivent et qu'elles sont complètement démunies, vont pouvoir être hébergées, accompagnées. Donc on est en train de réfléchir aujourd'hui avec les collectivités, les services de l'État, la délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés, tous ces acteurs-là, on est en train de penser la bonne manière de prendre en charge les gens, de s'assurer qu'ils bénéficient de tous les droits auxquels ils auront droit, et évidemment d'un hébergement, puisque c'est la première chose dont ils auront besoin.
Hébergement d'urgence, il y a des places disponibles ?
Oui, il y a des places disponibles et il y en aura. Enfin, je pense que là, le gouvernement français a été extrêmement clair là-dessus. On ne va pas laisser les gens à la rue. Après, c'est vrai que ce qui est très très compliqué, c'est qu'on a un déficit d'anticipation aujourd'hui. On peut pas anticiper très facilement le nombre de personnes qui vont arriver. Donc je pense que les capacités d'hébergement, elles vont s'adapter aussi au fur et à mesure de l'évolution du conflit et des flux. On a quand même encore aujourd'hui l'espoir que les gens puissent retourner assez rapidement en Ukraine.
Pour l'instant, pas grand monde, mais vous anticipez éventuellement un conflit qui dure et deux, beaucoup de gens qui arrivent.
On est obligé de se préparer.
Parmi les donateurs, spectateur ici. Il y a beaucoup de gens du quartier. C'est un peu un village, ce quartier Jourdain. Écoutez Martine, par exemple. Elle est retraitée. Elle passe tous les soirs déposer ses dons. Elle voudrait faire plus que ça encore.
Je trouve que c'est le minimum qu'on peut faire devant ces gens qui souffrent et qui n'ont rien et qu'on va devoir aider et héberger. Et je viens de lire que la mairie, dès demain, on pourra signaler si on peut héberger des gens. Et je le ferai, bien sûr, dans la mesure du possible. J'ai de la place chez moi et je peux loger. Je verrai comment ça se passe, mais si je peux, je le ferai.
C'est pas simple de loger des inconnus?
Non, c'est pas simple. Je sais que mes petits-enfants et mes enfants seront peut-être un peu inquiets, mais moi non. Hein. Pendant tout le Covid, j'ai servi les personnes en difficulté, les personnes à risque, etc. Et je l'ai fait, Je pense qu'il faut aider quand même dans la mesure de ses moyens.
Delphine Rouillot, la question clé, c'est alors certes l'hébergement d'urgence, mais aussi la suite. Ça, c'est important de penser à la suite aussi.
Exactement. Ce que votre petit reportage montre, en fait, c'est cet élan de solidarité incroyable de beaucoup de Français qu'on connaît à chaque crise, en fait, à chaque grande crise internationale avec des enjeux comme ça d'accueil de réfugiés. Il y a un bel élan de solidarité. Mais la question, c'est comment on l'inscrit dans la durée. Ouais. Et votre journaliste pose une question intéressante à cette femme en lui disant, mais est-ce que vous êtes bien sûr de vous? L'hébergement citoyen, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui peut être utile et nécessaire si on se retrouve avec beaucoup de gens à devoir accueillir, mais il faut effectivement penser à un accompagnement pour que les personnes de ce bel élan de solidarité ne se retrouvent pas dans une situation complexe. L'État quand même a une responsabilité qui est de porter cet hébergement même dans la durée, et c'est là où les collectivités locales et l'État doivent travailler ensemble.
Encore une question, demain il y a un statut particulier au niveau européen qui sera décidé, la protection temporaire pour les réfugiés ukrainiens. Ça leur apporte quoi de plus, si j'ose dire?
En fait, ça leur apporte un cadre qui n'existe pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut demander l'asile quand on fuit une zone de guerre, mais demander l'asile, ça emporte des conséquences assez longues, on renonce à retourner dans son pays, etc. Là, l'activation de la directive sur la protection temporaire qui devrait avoir lieu demain, c'est une bonne chose, parce que ça va permettre un cadre harmonisé dans tous les pays européens, avec, pour les personnes qui seront bénéficiaires en France, des droits sociaux, le droit à une allocation, à un hébergement, le droit de travailler, ce qui n'est pas le cas pour les demandeurs d'asile, et donc véritablement un titre de séjour de 6 mois renouvelable, etc. Quelque chose qui va leur permettre, dès leur arrivée en France, de pouvoir prendre leur marque, scolariser les enfants.
Ça accélère la procédure et ça donne plus de droits.
Exactement.
Merci beaucoup Delphine Rouillot, France Terre d'Asile, d'être passée dans ce studio de France Inter improvisé ici.